Chers internautes, vous prêtez l'oreille au 69e entretien rivarolien de janvier 2026, soit le mois du très saint nom de Jésus. J'introduis dès à présent le directeur de publication, M. Jérôme Bourbon. Bonjour à vous.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver après une assez longue pause. Et d'abord, je vous présente en mon nom propre et au nom de toute l'équipe de Rivarol tous mes voeux à l'oreille de cette nouvelle année et de ce deuxième quart de siècle qui commence. Hein, puisqu'on a terminé le premier quart de siècle et on commence depuis le 1er janvier, le deuxième quart. Preuve d'ailleurs que le temps avance.
Très bien, nous allons faire d'ailleurs un large tour d'actualité nationale, même de nos milieux et un peu international également, voire religieux. Je vous lance tout d'abord sur ce qui nous concerne directement avec l'anniversaire de Rivarol, c'est 75 bougies. Est-ce que vous pouvez nous en parler, notamment de ce numéro?
Oui, bien, nous avons fait un numéro spécial, on montrera à l'écran, je le montre quand même là. 75 ans d'ardent combat rivarolien, vive notre jubilé d'argent, 1951-2026. C'est un jubilé de diamant. Hein, le jubilé d'argent, c'est 25 ans, le jubilé d'or, 50 ans, le jubilé de diamant, 75 ans, 3 quarts de siècle, ce n'est pas rien pour un journal imprimé, qui plus est pour un journal imprimé comme le nôtre, qui est quand même très combattu. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a perdu il y a bientôt 4 ans l'agrément de la commission paritaire, on a une multitude de procès, les prochains sont dès le début du printemps, notamment 5 procès dès le mercredi 25 mars devant la 17e, près de Clichy à Paris.
Ce ne sont pas que les fleurs qui vont fleurir.
Non. Et effectivement, j'aurais remercié d'abord tous les lecteurs qui sont attachés à ce journal et qui lui ont permis de franchir ce cap des trois quarts de siècle. Hein. Trois quarts de siècle, c'est toute une vie. Et il est vrai que la France, l'Europe, le monde ont beaucoup changé depuis le début des années 50. Et si eux ont beaucoup changé, sur l'essentiel, Rivarol est resté fidèle à lui-même. Fluctuat negmeragitur, la devise de la ville de Paris, s'applique bien à l'hebdomadaire de l'opposition nationale et européenne, avec toute une série d'invariants qui, je crois, font de ce journal une exception, non seulement dans la sphère francophone, mais je crois même dans la sphère européenne et occidentale, puisqu'aussi bien, je ne suis pas convaincu qu'il y ait aujourd'hui d'équivalent. Voilà. Quant à la ligne éditoriale, quant à son ancienneté, la régularité de parution, la radicalité, la pluralité des plumes, on a fait ce numéro spécial qui reste en vente dans les magasins de presse, dans les kiosques qu'on a accepté, donc pas partout, mais enfin essayez de le chercher quand même. Et, pour 10 euros, c'est un numéro d'une trentaine de pages, grand format, et où il y a une partie d'actualité bien sûr, mais aussi et surtout une rétrospective de ces 75 ans avec un hommage à notre fondateur René Malievin, à tous nos devanciers, aux anciens directeurs, aux principaux rédacteurs et dessinateurs qui ont animé ou qui continuent à animer aujourd'hui le journal. Voilà, donc je crois que c'est un numéro dense, riche, j'espère qu'il ne vous décevra pas si vous le lisez. Donc soit vous pouvez vous le procurer dans des magasins de presse, ou alors sur notre site rivarol.com, vous pouvez le commander, soit en version papier, soit en version numérique, soit les deux. En version numérique, vous l'avez immédiatement, il est à 8 euros, version numérique. Mais je crois vraiment que c'est un numéro à posséder et à conserver. Parce qu'en plus, on donne beaucoup d'informations sur l'histoire du journal. Donc je crois que c'est quand même un numéro qui est assez riche, où je pense que vous apprendrez beaucoup de choses, ou des choses peut-être que vous aviez oubliées. Et moi, je veux dire que j'ai fait avec les autres rédacteurs ce journal avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un gros travail, mais je crois que c'est très heureux, j'étais très heureux de le faire. Et je dis que c'est important parce que la presse papier, aujourd'hui, elle est quand même en difficulté. Hein, on dit... Et hélas, je crois que c'est vrai qu'on vit l'agonie de la civilisation de Gutenberg. Et en réalité, il faut vraiment être attaché à une presse papier, une presse politique, une presse d'opinion, de conviction. Et je crois que c'est quand même un peu une exception aujourd'hui. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment maintenir ce qui constitue une forme un peu de miracle permanent quand même dans la presse actuelle.
Très bien, passons à l'actualité politique avec cette motion de censure concernant Le Cornu, le Parti Socialiste. Que pouvez-vous nous en dire?
Eh bien, très nettement, je dirais que Macron ou la Macronie revient à ses premières amours, si j'ose dire, puisque si bien, il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron est issu du Parti Socialiste, et même pour être plus précis, du courant strauss-kahnien. du parti à la rose. Et en réalité, Sébastien Lecornu, Premier ministre que Macron nommé, qui est son plus proche et plus fidèle collaborateur, ne peut tenir que en co-gérant le pays, en quelque sorte, avec le Parti Socialiste, puisque seul le Parti Socialiste lui permet de faire en sorte que les motions de censure n'obtiennent pas la majorité absolue à l'Assemblée. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé encore ces derniers jours, puisque deux motions de censure ont été rejetées, d'autres l'avaient été quelques mois plus tôt, et moi je suis convaincu que, sauf énorme surprise, sauf coup de théâtre improbable, ce gouvernement tiendra jusqu'à la présidentielle du printemps 2027, puisque très clairement, le Parti Socialiste commande et le Cornu exécute. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que la seule feuille de route, la seule mission du Premier ministre et du gouvernement, c'est de faire en sorte que Macron puisse terminer, si possible sans heurts, son second et dernier mandat. Hein, dont je rappelle que, constitutionnellement, il s'achève au plus tard le 13 mai 2027. Et donc la seule obsession de Macron, il a encore dit d'ailleurs lors de ses voeux le soir de la Saint-Sylvestre, c'est de poursuivre jusqu'à ses derniers instants, ses dernières secondes, son mandat. Il l'a dit explicitement dans ses voeux. Et c'est ça, donc il est même prêt à revenir sur des réformes qu'on a présentées comme le marqueur du macronisme, comme le principal chantier de son second mandat, comme la réforme des retraites, hein, qui a été en tout cas, non pas abrogée, mais suspendue, mise entre parenthèses, au moins jusqu'en 2028. Et par ailleurs, on voit très bien que, alors qu'il a toujours défendu ces dernières années une politique de l'offre, on s'oriente très nettement vers une augmentation des impôts, des prélèvements, des taxes, tant sur les particuliers que sur les entreprises, conformément à la politique de la gauche, du Parti Socialiste, qui se caractérise par toujours plus d'impositions, plus de subventions et plus de redistribution. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Mais on pourrait dire, oui, mais si le Parti Socialiste refuse de censurer ce budget, peut-être que ce qu'on appelle la droite parlementaire, institutionnelle, pourrait trouver à redire et censurer un gouvernement qui mène de plus en plus une politique de gauche. Pas du tout, parce que eux non plus n'ont pas du tout envie de revenir aux urnes où ils savent qu'ils seraient battus. Et en fait c'est en quelque sorte des députés gamelards, hein, des députés qui savent que pour beaucoup d'entre eux ils seraient battus dans le contexte actuel, et donc ils sont prêts à tout et tout accepter, y compris ce qui est contraire aux convictions qu'ils affichent, aux prétendues convictions qu'ils affichent, pour pouvoir rester jusqu'au bout, voilà. Enfin, en tout cas jusqu'à la présidentielle. Donc moi je suis de ceux qui pensent, d'ailleurs, quand j'ai vu que la première motion de censure en octobre dernier n'avait pas obtenu la majorité, je me suis dit immédiatement, tout laisse à penser qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Hein. En plus, vous avez au mois de mars les municipales, en septembre les sénatoriales, la campagne présidentielle peu à peu va commencer, elle dure en général un an, donc c'est fini. Je pense que, sauf vraiment coup de théâtre improbable, je pense qu'il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de législative anticipée d'ici la prochaine présidentielle. Je pense que le gouvernement, le Cornu, va expédier les affaires courantes, mais, encore une fois, en étant l'otage consentant du Parti Socialiste. Voilà. Et sachant que Macron vient du Parti Socialiste, il ne faut pas oublier qu'il a été secrétaire général adjoint de François Hollande lorsque ce dernier était chef de l'État, qu'il a été ministre de l'économie de Hollande également pendant plus de 2 ans, bah finalement, quelque part, il y a quand même une forme de logique dans tout cela. Sauf que le Parti Socialiste s'inscrit quand même dans un courant qui est quand même très à gauche par rapport au fiscalisme, par rapport à l'économie, avec une vision qui est désastreuse pour l'économie. Il faut quand même pas oublier que nous sommes le pays au monde qui aujourd'hui est le plus taxé. Non seulement le pays d'Europe, mais le pays du monde, il faut le savoir, la France. Hein. Et donc c'est pas étonnant d'ailleurs que tout va de plus en plus mal. Hein. On va parler tout à l'heure des agriculteurs, mais que ce soit les industries, l'agriculture, tout tourne au désastre.
Hein. L'agroalimentaire, Auchan. Bon.
Oui, voilà. Enfin, ça avait déjà commencé il y a quelques décennies avec les mines, la sidérurgie, le charbon, ça a été le textile. Maintenant, c'est de plus en plus l'automobile. Voilà, et même effectivement, ça rend de grandes surfaces. Maintenant, la grande distribution commence à être touchée. Enfin, c'est quand même tout à fait impressionnant. Hein, voilà. Et l'agriculture, on en dira un mot, c'est effrayant. Donc, on voit très bien que Macron est un syndic de faillite, mais je dirais que ses prédécesseurs l'étaient également. Alors on continue et on s'enfonce toujours davantage, et malheureusement, la France avec.
Et vous l'avez mentionné, donc cette affaire, cette énième jacquerie concernant les agriculteurs et surtout la réaction de l'État, donc oui, qu'est-ce que l'on peut en dire ?
Ben, je crois qu'on ne peut pas ne pas être bouleversé par ce qui se passe, parce que on voit très bien qu'il ne faut pas se payer de mots, c'est l'agonie de la paysannerie, l'euthanasie de la paysannerie à laquelle on assiste. Le Parlement va probablement, hélas, voter le suicide assisté et l'euthanasie active dans le courant de l'année 2026. Tout devrait être bouclé avant la prochaine présidentielle. Preuve d'ailleurs que Macron aura bien hérité du diable, parce qu'on lui doit quand même l'allongement des délais d'avortement de 12 à 14 semaines, l'extension de la procréation médicalement assistée déjà condamnable en soi aux lesbiennes, et puis la constitutionnalisation du prétendu droit à l'avortement dans la Constitution en 2024. Et là, il va parachever son œuvre diabolique, si j'ose dire, avec l'euthanasie et le suicide assisté. Ou d'ailleurs, on va même créer un délit d'entrave. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un, une personne un peu âgée, qui se sentira un petit peu esselé, un peu mal, qui à un moment donné pourrait avoir envie d'en finir, si la famille essaye de l'encourager à rester en vie et tout cela,
il doit être
poursuivi. Voilà, donc est là. Comme il y a un délit d'entrave à l'IVG, hein, depuis 1993, loi d'Hertz.
On n'a pas le droit de s'y opposer, voilà. Encore plus quand on est docteur.
Et même un délit d'entrave numérique, enfin, c'est effrayant. Voilà. Donc on va de plus en plus dans la culture de mort, et finalement, cette société mortifère, cette société criminelle, cette société de qui repose sur la dévastation, la destruction de l'ordre naturel, du bon sens, eh bien, il n'est pas illogique qu'elle s'en prenne aux paysans. Puisque les paysans, les magnifiques discours du Marshall Pétain sur les paysans, sur la terre qui ne ment pas, et ils ont bavé au fil des siècles, hein, pour faire en sorte que cette terre, donne du fruit. Ils l'ont développée, ils l'ont embellie. Il n'y a que les écologistes pour penser que la nature par elle-même n'a pas besoin d'être entretenue. Et on sait que c'est ô combien difficile. Et puis ça a été les premiers, les paysans, quand il y avait des invasions, à défendre la terre nationale, et justement, ça leur permettait d'être attaché particulièrement à un terroir. Quand on travaille la terre, non seulement on est attaché au ciel, que l'on voit à l'œuvre de la création, c'est plus difficile de devenir matérialiste et athée. Hein, et de la même manière, le travail de la terre, évidemment, ça développe un saint patriotisme, c'est évident. Ce qui est beaucoup moins le cas, évidemment, quand on vit dans des grandes villes complètement atomisées. Et donc, que ce soit le traité du Mercosur, où Macron fait preuve d'une hypocrisie absolue, puisque voilà des négociations qui ont duré plus d'un quart de siècle, voilà près de 10 ans qu'il est à l'Élysée, il n'a rien fait pour, jusqu'à une époque récente, pour s'y opposer, et même pour freiner, pour ralentir les discussions. Et là, tout à coup, il feint de s'y opposer parce qu'il affaiblit politiquement et que bon, il veut éviter quand même des jacqueries qui pourraient être dangereuses. Il se rappelle quand même les gilets jaunes. Hein. Mmh. Je me rappelle une fois à la télévision, il était très vite et blême. Tellement il était à ce moment-là détesté dans le pays.
C'était le président de la crise Covid aussi.
Voilà, mais. Et donc, en l'occurrence, bon, il a envie de finir son mandat, hein, comme je dis, son obsession, mais voir à quel point les paysans ont été abandonnés, sacrifiés pour les pouvoirs publics, et aussi, il faut bien le dire, par les syndicats agricoles, à commencer par la FNSEA. De toute façon, si on reprend la politique de remembrement de Pisani, et surtout la politique agricole commune telle qu'elle s'est développée depuis les années 60, ça a été vraiment un désastre. Hein. Je rappelle qu'il y avait, après-guerre, des millions de paysans, des millions d'exploitations agricoles, et aujourd'hui, il n'y a plus que quelques centaines de milliers à peine de paysans. Chaque mois, il y a des centaines de fermes d'exploitation qui disparaissent. D'ailleurs, c'est le métier où il y a le plus de suicides, hein, avec, je crois, les policiers. Et le fait qu'on ait abattu des troupeaux entiers, quand on voit que c'est le travail de toute une vie, hein, des efforts considérables, plus l'attachement que l'on a à son travail, aux bêtes, etc., pour des normes. Le problème, c'est qu'on est une société complètement inhumaine aujourd'hui. Moi, j'ai 53 ans, je me rends déjà que dans mon enfance et ma jeunesse, la société est beaucoup plus humaine. Et les anciens qui ont 80, 90 ans le disent plus encore. Plus probable, une société complètement déshumanisée et une société de la norme. Par exemple, là, on a introduit des lits de grande vitesse qui fait que si on dépasse la vitesse de 50 km/h sur les routes, non seulement on peut saisir la voiture de tout de suite, mais on peut vous mettre en prison, quoi, même y compris de manière immédiate. C'est hallucinant. Alors que je suis désolé, mais si vous êtes sur une route ou un véhicule en bonne qualité, une chaussée de bonne qualité, une ligne droite, il fait beau, bon, ben, si vous roulez, même sur une route, si vous roulez à 180 au lieu de 130, je ne vois pas en quoi on est un criminel, si vous voulez. Voilà. Le code de la route, il est fait pour être violé d'une certaine manière. Alors, intelligemment, évidemment, on peut commettre des imprudences graves.
Pas comme Palmade, oui, mais...
Voilà, bien sûr. Mais il est évident que ça n'est pas le cinquième évangile, le code de la route. Bon, ça demande quand même une certaine... comment dirais-je, il est évident que quelqu'un qui sait conduire, qui a l'habitude ce qui est important, c'est de maîtriser son véhicule, ce qui est très important, voilà, de tenir compte de l'état de la chaussée, de sa fatigue, de plein de critères. Mais on voit très bien que, alors qu'on promeut toutes les perversions morales et sexuelles, hein, l'automobiliste est considéré comme un assassin en puissance. Bon. Et de la même manière, le paysan, non seulement il est le souffre-douleur et la vache à de l'État, l'automobiliste, et en plus on considère comme un assassin en puissance. Et ben, les paysans, si vous voulez, d'une certaine manière, pareillement, ils sont sacrifiés. Ça a été monstrueux. Quand on pense, avec la Fresnel, au moment où il y a eu des émeutes dans les banlieues halogènes, tout ça, qu'on était très compréhensifs vis-à-vis des émeutiers qui détruisaient tout, des gymnases, des bibliothèques, des différents bâtiments publics, brûlant des voitures dans les rues, etc. Là, on considérait que finalement, ils avaient raison, ou à tout le moins, ils avaient des circonstances atténuantes. Voilà. Alors que, en revanche, contre des paysans, là, on a fait appel à des blindés, carrément. Il y a des images qu'on a vues, il y a eu des vidéos, c'est hallucinant, quoi. Voilà.
Donc, alors que la bonne nourriture, on l'a aussi grâce à...
Bah, bien sûr, c'est essentiel d'avoir une autosuffisance alimentaire, et on voit très bien que, en réalité, il faut... Beaucoup de gens ne le comprennent pas, ils ne veulent pas le voir tellement c'est inouï, mais pourtant c'est vrai, il faut avoir conscience que les pouvoirs publics ne sont là, et ce déjà depuis 30 décennies, que pour nous détruire finalement, voilà, nous détruire. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ils sont si vindicatifs contre les nationaux, les nationalistes, parce que ce sont des forces politiques, des personnalités qui expriment la défense de la France et des Français. En fait, ce sont les Français qui sont visés, qui sont attaqués. C'est pourquoi, par exemple, Jean-Marie Le Pen a été si attaqué. Ce n'est pas parce qu'il a fait telle déclaration ou telle autre et tout cela. C'est d'abord...
Un petit peu, parce qu'il y a des provocations, mais...
Bah, oui, il fait des provocations, il dit la vérité. Bon. Mais disons que c'est d'abord et avant tout parce qu'il était le défenseur, l'avocat du peuple français. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est évident. Et donc, on voit très bien que ce sont les Français et la France traditionnelle qui est la cible, évidemment, du pouvoir mondialiste, des cercles mondialistes, dont Macron et d'autres. Sont des représentants et des exécutants. Voilà.
Puis il y avait une conviction et un caractère aussi, c'est ça qui change. Là, quand un journaliste lui dit « Oh, j'ai croisé chez vous un Portugais qui a dit « Je vote Le Pen parce que ça me rappelle Salazar », et bien Jean-Marie Le Pen lui répond « Ah, mais c'est dommage, vous n'avez pas croisé un Allemand qui a dit que je vote pour lui, ben, ça me rappelle Hitler. Ouais. » Bon, c'est vrai que c'est fini cette époque-là.
C'est fini cette époque. C'est une époque complètement chloroformée.
Ouais, ah oui, à fond, ouais.
Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important qu'un journal comme Rivarol existe, parce que justement, c'est encore de la nitroglycérine.
Voilà. Ça rappelle que ça existe.
Voilà.
Et alors, ça recule aussi au niveau de célébration de messe, non ? On ne peut plus vraiment prier pour les morts. Là, c'est à Verdun, concernant une messe honorant le maréchal Pétain qui a été interdite, et même pas par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais pour le coup, la Grande Guerre.
Cette affaire est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante qu'on pourrait le penser de prime abord, parce que quand on y réfléchit, c'est inouï, et c'est là qu'on voit toujours plus loin dans la folie et dans le recul de libertés élémentaires et fondamentales. On l'a déjà vu avec le Covid, hein, avec liberté de circulation, de réunion, et déjà la liberté de culte, hein, qui était mise en cause, bon, à l'époque. Mais là, pour une messe, même si en l'occurrence c'est une nouvelle messe, hein, donc bon, on va dire un office, quoi, etc. Bon,
un office religieux.
Voilà. Mais enfin, c'est le principe qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que un office religieux pour le repos de l'âme du maréchal Pétain, eh bien, on veut l'interdire. En disant d'ailleurs que c'est un hommage qui est faux. Une messe près de Villon n'est jamais un hommage à un défunt. On prie pour le repos de l'âme du défunt, justement pour que le bon Dieu lui pardonne les péchés qu'il a pu commettre, récompense ses bonnes œuvres et le conduise au paradis, hein, lieu de ravissement, de rafraîchissement éternel. Et donc, une messe qui avait pourtant bénéficié de toutes les autorisations. Eh bien,
elle devait le faire chaque année, peut-être avant d'ailleurs.
Oui.
Alors, elle devait le faire pour Napoléon.
Non, mais à un moment donné, c'était le sieur de Haumont, puis finalement, déjà, il n'avait plus voulu à un moment donné. Et là, dans une modeste église, l'église Saint-Jean-Baptiste à Verdun. Bon, donc, finalement, l'association de défense de Maurice Michel Pétain, la DMP, devant l'interdiction du maire d'hiver gauche de Verdun, hein, qui est un fou furieux, Samuel Hazard, bien, qui avait donc pris un décret d'interdiction, a été devant le tribunal administratif de Nancy, qui a levé l'interdiction, à juste titre, il a appliqué simplement le droit, une messe avait été autorisée, où est le problème, et finalement, ils ont quand même fait une contre-manifestation dedans, enfin, devant, mais ce qu'il faut, le problème, c'est que ça a eu des conséquences, c'est que finalement, après ce coup d'essai, si j'ose dire, ce communiste parisien, Yann Brossa, ayant vu sur internet qu'une messe à la mémoire de Franco de José Antonio le 20 novembre, donc c'était quelques jours après, c'est le 15 novembre, le marché matin, la messe dite, là c'est le 20 novembre, tout de suite il a dit non, il faut interdire cette messe, on ne peut pas laisser faire, et malheureusement, les gens qui ont organisé cette messe ont cédé. Voilà. Et puis maintenant, j'ai appris que même la messe qui se disait pour le 6 février, pour Brasillac, pour le repos de l'âme de Brasillac, également n'aurait plus lieu. Hein, voilà. En tout cas, n'aurait plus lieu officiellement dans les chapelles où elle avait lieu jusque-là. Et donc, ça, c'est quand même triste parce que, d'abord, il suffit que certains éléments de gauche, prétendument antifascistes ou fascistes, antifascistes, ou comme ils veulent,
d'arriver un gauchiste.
Disent non et on cède, quoi. Je veux dire, c'est quand même dramatique, quoi. Bon. Mais si vous voulez, même le principe même qu'on puisse interdire des messes pour le repos de l'âme du maréchal, c'est quelque chose qui est hallucinant. Hein. Enfin, du maréchal ou pour quelqu'un d'autre.
Ou pour quelqu'un d'autre,
oui. Que ce soit d'autre. Toute personne qui a été baptisée, hein, et qui décède, on peut dire une messe pour le repos de son âme. Non seulement on peut, mais c'est même très bien de le faire. On doit le faire. Bon, d'un point de vue catholique, c'est quand même quelque chose qui est quand même évident. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point, si vous voulez, on est quand même une société d'abord où il n'y a plus du tout de culture chrétienne, puisque j'ai entendu dire tout n'importe quoi là-dessus. Donc, il y a une inculture et une ignorance religieuse totale, premièrement. Et deuxièmement, au-delà de ça, il y a quand même un anticatholicisme qui devient absolument effrayant et qui est quand même affolant. On le voit avec les persécutions des écoles hors contrat de plus en plus. Je pense à l'école notamment Pauline Jaricot, près de Lyon.
Qui est tenue par des laïcs, d'ailleurs, mais catholiques.
Enfin, oui, mais c'était le cas aussi pour d'autres établissements hors contrat. C'est hallucinant, quoi. Donc, de plus en plus, il y a une persécution qui devient de plus en plus ouverte. Hein. Et il est vrai qu'avec la création des nouveaux délits qu'ils ont créés, homophobie, transphobie, biphobie, etc., LGBTphobie, etc., avec de disgracieux néologismes, eh bien, de plus en plus, ils ont l'arsenal juridique et administratif pour nous persécuter. Persécuter ceux qui défendent, à juste titre, la morale traditionnelle, la famille traditionnelle, la morale naturelle, le beau, le bien, le vrai, et les bonnes mœurs. Hein. Autrefois, quand même, la défense des bonnes mœurs, c'était quelque chose d'assez général. N'est-ce pas d'ailleurs dans le... dans le code civil de Napoléon, qu'on parle du bon père de famille. Aujourd'hui, on aurait du mal à parler du bon père de famille, puisqu'on fait l'apologie d'être à queen, d'être en genre, voilà.
Le patriarcat, c'est les lois des années
74-75. Oui, ça a déjà commencé, oui. Mais au nom, en fait, on va toujours plus loin, effectivement, dans l'inversion, dans l'horreur, mais il faut comprendre que ce qu'ils appellent l'idéologie antidiscriminatoire, ça consiste à finalement considérer qu'une trans vaut autant, voire davantage, qu'un bon père de famille, quoi, voilà.
Oui, même davantage finalement.
Qu'une drag queen vaut mieux, voilà. C'est même mieux, quoi. D'ailleurs, de plus en plus, on les encourage à raconter des contes, à encourager des enfants à se déguiser comme eux, à se maquiller, à se grimer, etc. De plus en plus, on a vu ça dans des bibliothèques municipales et autres, voilà. Donc, de plus en plus, il y a une volonté de pourrir l'enfance, l'innocence, dès le plus jeune âge. Hein. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Bon. Et évidemment, avec la bénédiction de l'éducation nationale, les pouvoirs publics, voilà. Donc c'est quelque chose qui est effrayant. Et donc, l'interdiction qui est faite d'un certain nombre de messes va également dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui prétendent être tolérants, alors qu'il n'y a pas plus intolérants et fanatiques qu'eux. Au fond, ce sont les héritiers des révolutionnaires hein, qui ont commis les massacres de septembre, voilà, qui ont amené à l'échafaud toute une série de prêtres, de religieuses, etc. Commencer par les cramer les deux Compiègne et bien d'autres.
Ils ont une mentalité inquisitrice, mais sécularisée.
Inquisitoriale et
mes versions
et en fait,
matérielles.
Ils ont bonne conscience de haïr sans aucune limite ce qu'ils estiment être leur adversaire et leurs ennemis. Alors que nous, contrairement à ce qu'on nous reproche, nous n'avons aucune haine. Voilà. Bon, moi, qu'il y ait des journaux, des revues d'extrême-gauche ou autres, personnellement, ça ne me dérange pas, à partir du moment où nous, on peut également s'exprimer. Voilà. On ne va rien faire contre eux. Alors qu'eux, ils ne supportent pas qu'on existe. Voilà. Et ils ne supportent pas, eux qui prétendent aimer le débat, le pluralisme des idées, ils ne supportent pas qu'on puisse penser différemment. Et c'est si vrai d'ailleurs que sur toutes ces questions-là, notamment tout ce qui concerne le transsexualisme, l'homosexualisme, etc., si on n'est pas totalement sur leur position, il n'y a plus de discussion possible. On est considéré comme un délinquant de la pensée, alors qu'on ne fait que dire non seulement ce qui est dans la Bible, dans le catéchisme, mais ce qui était la norme pendant des siècles et des siècles, et il y a encore quelques décennies. Voilà. Donc ça prouve à quel point on a changé de monde. Il y a une révolution, ce que Hannibal, dans nos colonnes, appelle la révolution arc-en-ciel. On pourrait l'appeler la révolution cosmopolite si on veut. Mais en tout cas, il y a une volonté de créer un homme nouveau et une société nouvelle, et au forceps. Hein. Et ça se fait vraiment de manière de plus en plus brutale. Hein. Et c'est pourquoi nous, par exemple, on ploie sous les différents procès, hein, sous les différentes procédures qui nous sont faites. C'est vrai sur ces questions dites sociétales, morales, familiales, etc. Mais c'est vrai également sur tout ce qui concerne le sionisme, évidemment le révisionnisme, enfin, tout ce qui de près ou de loin a trait également à la question juive, où on ne peut rien dire sauf à se coucher complètement, voilà, devant ces gens-là. Voilà. Et donc la moindre expression, même des humoristes maintenant ne peuvent plus, enfin, par exemple, il y a eu Blanche Gardin, qui pourtant est soutenu Mélenchon, qui était plutôt à la gauche de la gauche, parce qu'elle avait, lors d'une manifestation de défense de Gaza, du peuple palestinien, elle avait simplement ironisé sur la lutte contre l'antisémitisme. Effectivement, si on défend les Palestiniens, on a de la compassion pour eux, on est considéré comme antisémite, hein, pour le lobby juif aujourd'hui. Bon, eh bien, elle avait juste ironisé là-dessus, eh bien, elle a été chassée de partout. Hein. Elle est obligée de vendre son appartement parce qu'il n'y a plus aucun contrat. C'est terminé.
Hein. L'ironie est antisémite.
Et après, on va nous dire que ce n'est pas les juifs qui tiennent tout. Bon, mais enfin, n'empêche qu'elle n'a plus aucun contrat. Et je me rappelle que ça avait été le cas également pour une héroïne qui était pressentie pour, je crois, le film d'horreur Scream 4. L'héroïne de Scream 4, elle avait fait, je crois, un poste ou quelque chose de défense des Palestiniens. Ça a été fini. Hein. Donc, voilà. Hein, parce qu'effectivement, tous les producteurs sont juifs. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Bon, les contrats s'arrêtent immédiatement. Même Villepin l'avait dit d'ailleurs à un moment donné. Hein. Sauf qu'il n'y avait pas une digue qui remontait à l'origine précisément, mais c'était implicite. Quoi. Bon, mais c'est évident, les contrats s'arrêtent immédiatement. Et Dieudonné, alors là, Dieudonné, ça va à un point qui est absolument effrayant, c'est-à-dire que non seulement.
Oui, vous pouvez passer à l'onglet répression.
Tous ces spectacles sont interdits. Mais non seulement ils sont interdits, mais c'est arrivé à 4 ou 5 reprises déjà, les gendarmes, les policiers viennent interrompre le spectacle lui-même, ce qui ne s'est jamais vu à ma connaissance dans l'histoire de France, hein, pour des spectacles, même sous l'occupation, pourtant c'est décrié, on se demande pourquoi, jamais à ma connaissance, aucun spectacle n'a été interrompu par les autorités d'occupation. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est inouï. Et j'observe qu'il n'y a aucune réaction face à cela. En tout cas, il n'y a aucune réaction publique d'artistes, de saltimbanques, d'intellectuels, de publicistes, d'écrivains, pour dénoncer cela. Mmh. Bon, à la limite, quelqu'un même pourrait ne pas avoir de sympathie particulière pour Dieudonné, mais être scandalisé de cela.
Vous aimez bien cette ingérence,
pas du tout.
Oui,
Pas du tout, dans les arrières, il y a aussi une lâcheté généralisée. Bon, voilà. Et on a vraiment affaire à des larves. Hein. D'ailleurs, je rappelle, le professeur Frisson, il me disait toujours, toute ma vie, j'étais entouré de larves. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a fait mettre sur son tombeau, au cimetière de Vichy, une coccinelle, qu'on voit très bien, enfin, qui est collée hein, sur sa pierre tombale. Parce que, savez-vous que la coccinelle, c'est l'insecte qui dévore les larves. L'insecte qui dévore les larves, voilà. Voilà, donc c'était quand même un trait d'esprit.
Ouais, il a eu quelques amis proches courageux, je pense.
Il y a quelques-uns, ouais. Bien sûr. Il ne le conteste pas, il n'a jamais contesté. Mais c'est vrai que globalement, il y a une lâcheté généralisée. Voilà. Et donc, donc, c'est quand même incroyable quand on y réfléchit, quand on arrive à interrompre des spectacles, y compris des spectacles Dieudonné, des best-of, par exemple, des sketchs qui n'ont jamais fait l'objet ni de poursuites ni de condamnations pénales. Voilà. Donc, voilà où on en est. Voilà. Donc, il suffit que l'objet juif décide quelque chose, eh bien, les pouvoirs publics exécutent. Et vous avez des gens qui, les policiers et les gendarmes qui font ça, alors certes ils sont payés pour cela, enfin ils ne doivent pas être très fiers, je pense, de faire cela, mais c'est regrettable même qu'ils le fassent, parce qu'il y a un moment donné, il y aura une désobéissance qui serait nécessaire. Alors, quand on commet un acte, quand on leur demande de mettre un acte qui va contre la vérité ou la morale ou la justice, il ne faut pas le commettre. Ne nous le dit-on pas en permanence par rapport à ce qui s'est passé dans une guerre mondiale, qu'il fallait que les fonctionnaires ne n'obéissent pas, qu'il fallait que... Ils se révoltassent, voilà, bon. Et en l'occurrence, là, voilà, on demande à tout le monde de commettre des actes objectivement immoraux. Voilà, donc...
Oui, concernant Dieudonné, voire même Vincent Reynouard et sa garde du
Ah, mais de toute façon, aujourd'hui, les gens qui sont un petit peu en pointe dans le combat, alors que ce soit sous une forme humoristique comme Dieudonné, je pense aussi à Alain Soral. Là, il y a eu des réquisitions il y a quelques jours dans un procès je crois que Égalité et Réconciliation avait permis qu'il y ait une émission de l'Axe de la Résistance, notamment, je crois, animé par Aïssa. Bon, voilà, donc rien que pour cela, c'est même pas des propos directs d'Alain Soral, le procureur de la République a demandé 3 ans de prison ferme, 30 000 euros d'amende et un mandat d'amener, on aura le jugement le 26 février, contre Alain Soral. C'est hallucinant. Simplement pour, au fond, un délit d'opinion. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas le droit de défendre la Palestine, on n'a pas le droit de s'opposer à l'inquiétionniste qui divinisait d'ailleurs...
Pendant ce temps-là, les OQTF ne quittent même pas le territoire français.
C'est sûr, absolument. D'ailleurs, il y a une proposition de loi de Caroline Yadan, qui est une ultra-sioniste, justement pour encore accroître la chape de plomb, ne pas permettre qu'on puisse critiquer Israël. Il y avait déjà eu d'autres propositions de loi dans ce sens. Voilà, on vit dans une folie pure, alors même que des ONG israéliennes reconnaissent qu'il y a une torture systématique faite par les autorités israéliennes vis-à-vis des prisonniers palestiniens, qu'on les viole, qu'on les fait attaquer par des chiens, bon, sans même parler de la... qu'on les brûle avec des cigarettes, on les torture par tous les moyens, et on sait que la famine a été utilisée, reste utilisée encore contre le peuple palestinien, sans cesse bombardée, dont les immeubles, les maisons, les vergers sont systématiquement détruits, y compris les lieux de culte, les cimetières.
Y compris chrétiens d'ailleurs, même si c'est minoritaire.
Y compris chrétiens, absolument. Voilà, c'est absolument effrayant. Là, c'est un véritable carnage, un véritable génocide, mais ils ont le droit. Et si on le dénonce, on est antisémite. Mais au fond, ils font, par rapport à ça, exactement la même chose qu'ils ont fait vis-à-vis du révisionnisme. Il s'agit d'une controverse historique, voilà, des conclusions en termes de chercheurs qui ne conviennent pas au lobby juif, et par conséquent, eh bien, on dit c'est antisémite. Hein. Tout ce qui ne plaît pas au lobby juif est antisémite, voilà, donc c'est facile. Voilà. Donc ça a été vrai pour le révisionnisme, et c'est vrai pour l'antisionisme. Hein. Il y a quelques décennies, on avait parfaitement le droit, c'était parfaitement licite, d'être antisioniste. Hein, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est considéré comme une forme d'antisémitisme. Ils font exactement la même chose pour le révisionnisme, alors qu'en réalité, ça n'avait rien à voir avec l'antisémitisme. Simplement, à un moment donné, un certain nombre d'études faites par le professeur Frisson et par d'autres ne coïncidaient pas avec l'histoire officielle, hein, l'histoire imposée par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et bien voilà, on a dit c'est l'antisémitisme. Et donc, on a créé un délit spécialement, et donc, c'est c'est pourquoi dans un certain nombre de pays, même des gens ont été incarcérés pendant des années entières, jusqu'à 15 ans.
Pour l'Allemagne souvent.
Ou l'Autriche, voilà, comme Frölich, qui restait 15 ans en prison, par exemple. C'est hallucinant. Voilà. Alors qu'il y a des violeurs, des criminels, auprès des OQTF qui commettent des crimes affreux, bon, bah, souvent, ils restent bien moins que cela en prison quand encore ils y vont. Voilà. Donc, voilà le monde dans lequel nous vivons. Il est effrayant et c'est pourquoi il importe de chercher, de dire la vérité. Voilà. C'est la vérité, il faut s'y soumettre humblement et s'y dévouer entièrement. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important, et je crois vraiment que c'est ce à quoi nous employons, avec toutes nos imperfections, à Rivarol. Voilà. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, on est à ce point combattu, ostracisé, diabolisé, mais c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'on dérange, parce qu'on est tout petit finalement, on est tout petit, mais ce simple murmure, simple balbutiement, est encore trop pour ceux qui nous oppriment. Alors, avocat pour Vincent Edouard, si vous en prédiez,
oui,
je ne voudrais pas l'oublier. Oui, bah, lui aussi, bah, nous aussi, on aura d'ailleurs des procès en commun le 25 mars, mais lui-même croule sous les gardes à vue et les convocations devant la police et la justice. Et voilà 2 ans maintenant qu'il a été extradé de France. Je rappelle qu'il avait dû quitter la France pour le Royaume-Uni déjà parce que. Il risquait la prison et que les poursuites se multipliaient. Finalement, on est allé le rechercher. On a fait un appel au contre-espionnage britannique, comme si c'était un terroriste d'une dangerosité absolue. Ce qui prouve, soit dit en passant, que les positions révisionnistes, quand même, gênent. Hein, parce qu'évidemment, la Shoah, c'est la clé de voûte du système mondial. Donc, les gens qui disent que ça n'a pas d'importance, la preuve que si, on ne mettrait pas tant de moyens que cela pour rechercher une personne seule au fin fond de l'Écosse. Si c'était pas important. De même, on ne ferait pas en sorte que tous les enfants des écoles aillent qui à Auschwitz, qui au camp des Milles, qui au Struthof, si ce n'est pas important. Voilà. Bon, donc, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Donc, oui, donc, Vincent Renoir, en effet, est poursuivi. Et nous aussi, on a évidemment beaucoup de poursuites judiciaires. On verra bien ce que tout cela donnera, mais il est bien évident qu'on ne peut pas céder sur le fond. À partir du moment où, quand on dit quelque chose, on est convaincu d'avoir raison, et qu'on est convaincu d'avoir raison et qu'on apporte des arguments rationnels, eh bien, il n'est pas acceptable intellectuellement, scientifiquement ni moralement de devoir renoncer à ce qu'on dit au motif qu'on le dit, c'est interdit. On a toujours été favorable à des débats, on nous interdit le débat. Mais la vérité, et notamment en histoire, ne craint pas les débats, ne craint pas même les insinuations. Si on est convaincu de ce qu'on avance, on a des preuves incontestables, irréfutables, à l'appui de ce qu'on dit, on ne doit pas craindre le débat. Et je trouve déjà, et ça devrait faire réfléchir les gens, si on est obligé de créer des lois d'exception pour interdire un certain nombre de débats, notamment de débats historiques, de controverses historiques, de prises de position historiques, ça prouve bien qu'il y a quand même une difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour parler comme Martine Aubry, c'est qu'il y a un loup. Hein, voilà. Et donc, il est évident que ça devrait quand même faire réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout nier, on peut les blasphèmes plus épouvantables, Charlie Hebdo et d'autres, sur le Christ, la Sainte Vierge, c'est abominable. Ça, par contre, c'est prétendu autoriser, c'est la liberté d'expression. En revanche, considérer qu'il y a des choses qu'on dit sur la Seconde Guerre mondiale qui ne sont pas vérifiées, prouvées, comme on puisse dire, ça par contre, c'est quelque chose d'abominable, criminel et tout ça. C'est hallucinant quand on y réfléchit, hallucinant. Et plus on s'éloigne chronologiquement de la Seconde Guerre mondiale, moins on peut s'exprimer librement sur ces questions, y compris d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, sur le Marshal Pétain. Il y a une diabolisation, ça n'est pas des progrès historiographiques qui sont l'origine de ça, c'est la pression insupportable, tyrannique, d'un lobby, une coterie, toujours la même. Il faut dire ce qui est, c'est tout, voilà. Donc, il faut bien avoir conscience que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'il faut bien appeler, voilà, je suis désolé d'employer le mot, mais il n'y en a pas d'autre. Voilà.
Passons au pot international, bon, concernant Trump avec le Venezuela, pourquoi pas un mot sur l'Iran, le Groenland, voilà, toutes ces choses.
Oui, eh bien, je crois que... François Mitterrand avait dit au journaliste communautaire Georges-Marc Benamou que la France ne le savait pas, mais qu'elle était en guerre contre les États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique sont très voraces et qu'ils demandent une guerre à mort. Même si c'est une guerre apparemment sans mort, c'est une guerre à mort, une guerre de chaque instant. Et en réalité, que la Maison Blanche, quel que soit le locataire de la Maison Blanche, qu'il soit occupé par le parti de l'âne, les démocrates, ou le parti de l'éléphant, les républicains, on voit très bien que leur adversaire, leur ennemi, reste le vieux continent, reste l'Europe. Hein. Et on le voit de plus en plus avec Trump, dont la vulgarité, le caractère vénal et vaniteux est de plus en plus effrayant, je dois dire. Bon, j'ai souvent dit que cet homme était capable du meilleur comme du pire, mais je dois dire que depuis le début de son mandat, c'est plus le pire qu'il nous montre, hein, il faut bien le reconnaître. Hein. Oui. Et d'autant plus qu'il avait quand même mené une campagne qui allait dans le sens plutôt de l'isolationnisme, et finalement, il se montre plus intervenant, parce qu'il a été relativement peu intervenant dans son premier mandat, relativement peu. Et là, dans son second mandat, c'est une catastrophe. Hein, voilà. Et il y a eu donc la guerre de 6 jours contre l'Iran qui pourrait reprendre à tout moment. Hein. Peut-être que d'ailleurs qu'au moment où cette vidéo sera publiée, sera en ligne, peut-être que la guerre aura eu lieu puisqu'il y a des manœuvres dans ce sens, on verra bien. Mais il y a eu cette guerre des 6 jours contre l'Iran. Il y a eu donc cet acte de piraterie internationale, je ne trouve pas d'autre mot, avec l'enlèvement, la capture de Maduro et de son épouse. C'est hallucinant. C'est contraire à tous les principes du droit international. C'est le droit d'ingérence de Kouchner, quoi. C'est l'extrême. Hein. Ça rappelle ce qu'ils ont fait avec Saddam Hussein. Pour se saisir du pétrole du Venezuela, aussi pour évidemment ennuyer la Chine, mais ce sont quand même des méthodes absolument mafieuses, détestables. C'est vraiment un état voyou et terroriste, hein, les États-Unis d'Amérique, hein, c'est quand même frappant. Et là, ils veulent se saisir du Groenland, alors bon, aux dernières nouvelles, Trump recule un peu, ou il accepterait si on donne d'autres bases aux États-Unis, peut-être ne pas l'envahir tout de suite. Enfin, mais enfin, on voit très bien qu'il gère son pays en promoteur immobilier, voilà, en rapace, etc. Bon, mais par contre, toujours sur une ligne quand même ultra-sioniste, hein, quand même toujours, puisque c'est lui quand même qui a donné des armes permanentes, considérables, à l'entité sioniste pour tuer, vous voyez ce qu'il dit, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont, pour tuer quand même par dizaines de milliers et des Palestiniens, hein, les tuer ou les blesser, les mutiler, voilà. Ça c'est une réalité quand même. Hein. Le carnage à Gaza, c'est Netanyahou, mais c'est tout autant Trump. Hein. C'est aussi en partie l'Europe, hein, qui a aussi malheureusement participé, mais de manière moindre, bien moindre quand même que les États-Unis. Et donc, et le monde entier a laissé faire ce carnage parce que, j'ai eu l'occasion de le dire très souvent, le problème c'est que les gens ont plus peur de l'antisémitisme que de la perpétration d'un génocide. Voilà. Et c'est quand même effrayant quand on y réfléchit que la religion de la Shoah, le culte shoatique, on nous dit faut aider passer de mémoire, faut que les jeunes générations se dressent contre toutes les formes de crimes contre l'humanité, de génocide, de traitement inhumain des gens. Et là, il y en a un sous nos yeux qui est parfaitement documenté, qui se passe à Gaza. Et là, quand il y a des jeunes qui s'étaient un peu levés, des étudiants, notamment en Sciences Po ailleurs, on a dit ils sont antisémites. Donc terminé, vous avez vu, ça s'est vite terminé, dire c'est fini. Voilà, on en est. Voilà le monde de fou dans lequel on vit. Et c'est là qu'on voit l'imposture du culte shoatique. Hein. Là, quand même, l'imposture, elle crève les yeux. Les gens qui ne veulent pas la voir, je ne peux rien pour eux. Hein. Voilà, c'est quand même flagrant. Bon, et donc, vous voyez que ce qu'on a lu déjà dans l'évangile, propter metum medirum par crainte des juifs, ça n'a pas beaucoup changé en 2000 ans. Hein. Par crainte des juifs, on laisse faire un génocide. Voilà, donc, c'est exactement ce qu'on vit. Il faut se pincer pour y croire, mais c'est la réalité. Voilà. Hein, et, ou alors on en est. Mais c'était déjà tout aussi choquant de mettre en prison des révisionnistes, voilà, simplement parce qu'ils ont des travaux et des conclusions qu'ils mènent tout à fait sincèrement, tout à fait honnêtement, et qui n'ont pas dans le sens de la vulgate. Bon, voilà. Bon, ben, c'est une injustice totale. Et la façon dont aujourd'hui les militants pro-palestiniens sont traités, quelle que soit leur opinion politique par ailleurs, ou philosophique ou autre, c'est un scandale absolu, et cela doit être dénoncé. Je veux en soi même pris, même dans un manuel à Hachette, parce que manuel. Il est par Hachette, manuel scolaire, parce que ce qui était dit sur 7 octobre n'était pas parfaitement cachère, hein, pourtant c'est pas très loin. Tout de suite on a retiré même une librairie pourtant très à gauche. On a tout de suite allé saisir un livre en toute urgence parce que c'était considéré comme trop pro-palestinien. C'est hallucinant. Hein. Et il suffit que les juifs, lobby juif décide quelque chose, hop, les pouvoirs publics s'exécutent, la police vient, enfin c'est effrayant. Voilà, ça se fait avec une rapidité, c'est hallucinant. Voilà où on vit. Et après, il y a des gens qui vont nous dire il ne faut pas considérer qu'il y a une forme de centralité de la question juive. Bon, ben, moi, je suis désolé, j'ai des yeux pour voir. Hein, voilà.
Vous savez, quand on nous expliquait que la remigration était impossible et qu'un chauffeur, Uber Eats algérien, qui n'avait pas la nationalité française, a refusé de donner un plat à une dame juive qui avait commandé un plat. Il avait été remigré immédiatement.
Oui, là dans ce sens-là, ça marche. Oui.
L'avion est fonctionnel immédiatement.
Oui, c'est assez rapide dans ce cas-là, oui, effectivement.
C'est intéressant, oui. Un mot sur l'Iran, peut-être
Oui, eh bien, si on reprend les choses, si vous voulez, il faut toujours regarder les choses sur le temps long, on s'aperçoit que depuis maintenant 35 ans, c'est-à-dire depuis la première guerre du Golfe en 1991, on voit très bien que tous les pays qui entouraient l'entité sioniste ont été éliminés, hein, ont été rendus à une forme de chaos. Ça a commencé avec l'Irak, de Saddam Hussein, en deux temps d'ailleurs, en 1991, puis ils ont achevé le travail en 2003.
Qui était un grand ami de l'Occident.
Il y a eu Bush-père et Bush-fils, en l'occurrence, voilà, de Boucher, si j'ose dire. Bon. Et puis, il y a eu l'Afghanistan, en 2001, après le montage en septembre. Bon, il y a eu, évidemment, la Libye de Kadhafi, en 2011. Il y a eu la Syrie de Bachar el-Assad, hein, on l'a vu donc... il y a donc maintenant un peu plus d'un an, décembre 2024, si je ne m'abuse. Et puis, il reste, le Liban a été complètement aussi neutralisé, si j'ose dire. Et donc, le dernier pays qui reste, c'est l'Iran. Et tout laisse à penser, effectivement, qu'ils vont finir avec ce pays. Donc, est-ce que ça va être fait tout de suite ou un peu plus tard? Je l'ignore, je crains que ça n'arrive assez vite. En tout cas, c'est toujours dans l'objectif de faire le grand Israël, de régner par le chaos.
On leur reproche de couper Internet, d'ailleurs, parce que ça met en danger la sûreté du régime, en quelque sorte.
C'est-à-dire que quand on dit que l'entité sioniste, finalement, c'est pas important...
Mais Vincent Renoir risque d'être interdit de réseaux sociaux.
Quand on dit que l'entité sioniste, c'est pas important, etc., je suis désolé, mais enfin, c'est un élément de déstabilisation du Proche-Orient et au-delà du monde entier qui est considérable. Les faits le démontrent de manière incontestable. Et donc, évidemment, cette puissance qui est absolument considérable, évidemment, sème le désordre, la mort et le chaos partout. Hein, pas simplement à Gaza, et même en Cisjordanie. Hein. Et en Cisjordanie, on ne peut pas dire qu'il y a le Hamas. Donc vous voyez bien que tout ça est un prétexte tout à fait dérisoire.
Oui, c'est une réaction, on envoie des bombes.
Je rappelle d'ailleurs que Netanyahou a été à plusieurs reprises depuis le 7 octobre au mémorial de Yad Vashem, se drapant dans la religion de l'Holocauste, justement. C'est là où il a tenu des discours de Rochène Sider en disant les Israéliens, c'est le peuple de la lumière contre le peuple des ténèbres que sont les Palestiniens, justifiant un anéantissement total de ce peuple. Voilà. Donc, en fait, les Juifs, il faut toujours les lire en miroir. Hein, quand ils vous parlent d'extermination, c'est les exterminateurs. Hein, quand ils vous parlent de criminels contre l'humanité, c'est eux. Hein, voilà. Donc, il faut le savoir, ça. Donc, nous ne sommes pas surpris.
Mais le jeune homme de gauche, là, a gagné face à Meir Habib, d'ailleurs. Il avait traité de porc, etc.
Oui, alors il a gagné au moins en première instance.
Oui, en tout cas, relaxé.
Après la suite. Mais effectivement, là encore, c'est parce que Meir Habib est un soutien des plus fanatiques exaltés de Netanyahou et de sa politique génocidaire. Et donc, à un moment donné, excédé, je crois qu'il prend l'Assemblée, Guiraud, et donc l'autre l'a interrompu grossièrement. Donc, il l'a traité de porc, voilà. Mais on a dit, c'est abominable.
En raison de son procès.
Voilà, c'est antisémite de traiter de porc. Donc, de toute façon, toute critique parfaitement justifiée d'un juif, c'est forcément tout de suite de l'antisémitisme. C'est tout de suite le crime des crimes. Voilà. Donc on ne peut rien dire. Donc c'est insupportable. Il faut refuser ce terrorisme intellectuel qui est absolument odieux et abject.
Terminons peut-être par le sujet religieux. On a parlé un peu de la messe à Verdun, il est vrai. Oui. Mais vous avez fait un dossier également dans Rivarol sur les 60 ans de la clôture de Vatican II.
Oui.
Donc concernant un peu ce basculement des chairs. Là, on est du temps, non pas de Jean XXIII, mais de Paul VI. Oui. Donc vous avez fait un peu une rétrospective en vous comparant un petit peu avec le pape Pie XII notamment. Bon. Je pense que vous pouvez nous faire un petit résumé et on terminera dessus.
Oui, si vous voulez, on ne peut pas comprendre ce que nous vivons aujourd'hui si on fait l'économie de la crise religieuse que nous vivons singulièrement quelques décennies, et notamment en effet depuis la mort de Pie XII et depuis Vatican II, effectivement, de ce changement à 180 degrés que nous avons connu, que nous subissons, et dont les conséquences sont apocalyptiques, notamment par la perte de la foi. Que cela a impliqué.
Et du sacerdoce aussi, peut-être.
Bien sûr, aussi, évidemment, la vérité des sacrements, le tarissement de la grâce, les canons de la grâce qui sont obstrués, et puis, effectivement, le fait que les nouvelles générations ne sont plus catéchisées, et qu'il y a effectivement une perte de la foi et des principes de la foi qui guidaient. La vie, parce que il y avait le dogme, il y avait la morale, il y avait les sacrements, et évidemment cela donnait un sens à la vie. Hein, on savait d'où nous venions, qui nous étions, où nous allions, alors qu'aujourd'hui la plupart des gens ne se posent même pas ces questions et sont dans un monde qui se caractérise par le chaos et par une forme il faut bien le dire, de débâcle et de désastre universel, et de nihilisme total, de matérialisme absolu, qui d'ailleurs ne rend pas tous les gens heureux. Hein. Il y a une fugacité aujourd'hui des engagements, des couples, des familles, même du travail. Et d'ailleurs, on peut dire que le programme communiste historique quelque part a été couronné de succès, hélas, puisque on a une société aujourd'hui qui est quasiment plus, où il y a quasiment plus de paysans, plus de travail, plus de famille, plus de patrie, hein, et plus de religion. Voilà. Mmh. Et c'était quand même le programme du parti communiste.
Plus de père de famille, plus de prêtre, plus de
voilà. Faisons du passé, faisons table rase. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Le monde a plus changé en ces 60 ou 70 dernières années. Que
ça donne le vertige. Moi, je suis assez jeune, mais pour vous, ouais,
c'est quelque chose de vertigineux. Moi, je me rends compte déjà à mon niveau, et c'est vrai quand on lit même Rivarol depuis les années 50, hein, jusqu'à aujourd'hui, quand on voit à quel point le monde a changé, c'est absolument effrayant. Hein, ouais. Voilà. Et donc,
il y a le numérique aussi, mais le cosmopolitisme, LGBT,
il y a l'invasion de la technoscience, hein, qui est évidemment un élément absolument central, mais il est vrai qu'il est frappant de constater à quel point nous vivons aujourd'hui une société sans travail, sans famille, sans patrie. Voilà. Et une société sans Dieu. Une société sans Dieu, c'est une société qui n'est plus respirable. Hein, où l'air manque à nos poumons. Une société qui devient, au propre comme figuré, vraiment invivable. Invivable. Et malheureusement, tout laisse à penser que ça va être de pire en pire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il importe de conserver une voie libre, une voie claire, et une voix qui s'attache à dire la vérité, à défendre des principes intangibles et éternels, et à débusquer les mensonges, et ce à quoi nous essayons de nous employer à Rivarol, à nos risques et périls. Mais en même temps, est-ce que la vie ici-bas vaut d'être vécue si on ne prend pas des risques?
Très bien, merci à vous, pensez à partager cette vidéo, à vous abonner.
Merci à tous, et à très bientôt.
Et à diffuser Rivarol.